En direct de Montréal.
Yolande Moreau, quel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour La fiancée du poète. Alors, un film choral avec des personnages attachants, des gens qui ont été un peu maganés par la vie et qui, grâce à Mireille, votre personnage, se rencontrent dans un lieu un peu magique où on se dévoile, on travestit notre identité, bref, on triche un peu, beaucoup, parfois. Racontez-nous la genèse du projet de ce film.
À la genèse, je suis partie d'une histoire de faussaire, moi. En fait, j'avais vu dans une revue un article sur Sean Greenhalgh, qui est un faussaire londonien, et on voyait des photos de ce qu'il avait réalisé, des œuvres absolument fantastiques. Ce sont ses parents qui vendaient ses œuvres un peu partout dans le monde. Et puis je me suis demandé, mais comment devient-on faussaire? Pourquoi? Et je me suis dit qu'au départ, on devait avoir d'énormes capacités, on devait avoir l'amour de l'art, etc. Et puis tout à coup, pourquoi on devient faussaire? Et donc je me suis dit que les faussaires étaient un joli thème pour le cinéma, pour l'heure actuelle en tout cas. Et j'ai beaucoup lu sur les faussaires en général. Et après, je me suis dit, mais je ne vais pas faire un documentaire sur les faussaires. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on a besoin de prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Alors, le faussaire, là, il devait être très, très doué pour faire ce qu'il a fait. Pourquoi il a eu besoin de, probablement parfois pour des raisons de fric. Mais moi, volontairement, je me suis détachée de ça. Je me suis dit, j'ai plutôt axé mon film sur le besoin de pouvoir rêver, par ricochet, le besoin de rêver sa vie. Voilà, j'ai repensé à ce personnage qui était dans mon premier film, Quand la mer monte, qui est le personnage de Johnny Hallyday. On l'a rencontré dans la rue, il s'habille en Johnny, il parlait comme Johnny. C'est absolument fascinant et aussi très très angoissant, inquiétant. Je dis, il a rêvé sa vie en prenant l'identité de quelqu'un d'autre. Et donc, je me suis un peu attachée à ça, à ce rêve, cette nécessité de rêve qu'on avait. Et parfois, à la nécessité aussi de s'inventer, de tricher avec la réalité, parce qu'elle est compliquée à vivre aux yeux de la société, comme les travestis, comme le sans-papier. Alors, ce sont tout, je me suis entourée. Moi-même, je triche un peu puisque je vis accrochée à mes rêves, que j'ai dû suivre un homme qui s'est présenté comme un poète. J'ai suivi le poète, pas l'homme. Et donc, s'accrocher à nos rêves qui nous font avancer, ce qu'on a besoin dans la vie. Il y a un très joli livre de Laurent Godet, son avant-dernier livre qui s'appelle « Grand menteur ». J'adore.
Ah, oui.
Ça parle de la même chose de manière très différente que mon film, mais la nécessité de pouvoir rêver, se projeter et par ricochet, je dirais, s'ouvrir aux autres, parler de la communauté, de s'ouvrir à l'autre, oui, de vivre avec les autres.
Mais c'est ça, parce que les gens mentent, trichent, mais au fond, c'est pour arriver à la vraie rencontre avec l'autre.
Oui.
À nourrir le lien, oui. Nourrir la, faire vivre cet amour.
Et arriver à une vérité, quelque part.
Oui, tout à fait. On sent beaucoup d'amour pour ces maganés. Ça, c'est une expression québécoise. Ces gens un peu abîmés par la vie autour de Mireille, votre personnage. Bon, elle aussi, elle a des casseroles, elle a fait de la prison. Et elle traficote pour vivre. Mais il y a toujours l'amour et un certain humanisme au cœur de vos films en général, et de ce film en particulier, sur la musique, sur les Roms, sur en fait la différence, même le curé,
oui.
qui en promenant ses chiens, à un moment donné dit « oui, bon, mais tu ne dis pas une partie de moi qui ne peut pas être avouée ». Et donc, Comment est-ce possible, justement, grâce à Mireille, de trouver dans un espace cette connexion pour vivre ensemble, en fait, retrouver ce cœur d'humanisme?
Comment
par rapport à votre film, comment Mireille arrive, grâce à son d'une certaine façon à son ingéniosité et son humanisme, et
je crois que c'est des petites paroles qui sont des petits déclics du père Benoît, parce qu'au début moi, j'ai voulu faire une fable, c'est comme une fable ou un conte, et elle dit qu'elle sort tellement le vide, le curé lui dit tu dois t'ouvrir aux autres, etc. Au départ c'était une fable, mais qui est inspirée de quelque chose de réaliste. Elle prend des gens, c'est des colocataires quand même, qui lui payent un loyer, ça l'arrange bien. Mais en même temps, petit à petit, elle s'ouvre et elle veut s'occuper d'eux. Et un peu, elle prend trois hommes parce qu'elle voudrait avoir trois. C'est un peu comme ces petits enfants ou des amants potentiels. Donc, à l'instar de sa sœur qui a trois fils. Donc elle se dit sa sœur a réussi, pas elle. Et elle prend, ça devient une famille un petit peu subversive, une famille un peu nouveau genre, voilà.
Mais c'est un peu politique aussi comme démarche.
Moi,
de
je
votre
trouve
part.
Que j'ai fait un film un petit peu politique, c'est-à-dire en tout cas libertaire, je dirais, voilà, qui incite un petit peu à marcher hors des clous et qui incite un peu à retrouver, je l'espère, les valeurs qui à se reposer les questions, quelles sont les valeurs qui nous mènent, qui nous sont essentielles. Et je pense que c'est, pour moi, les autres, l'amour des autres, l'amour, l'art, tout ce qui nous élève. Là, j'avais beaucoup pensé à ce pianiste dans les ruines
en Syrie,
oui. Qui joue du piano. J'ai beaucoup pensé à lui pendant que j'écrivais, comme un besoin de musique, d'élévation. J'ai eu même avec, d'ailleurs, au début, mon film s'appelait « Même au lieu des ruines », qui appliquait la notion de résistance, qui appliquait une résistance avec ce contexte morose qui est le nôtre. Là, le manque de rêve pour les jeunes qui arrivent et qui dit « Attention !» Dans ce sens-là, j'ai voulu faire un film un petit peu libre. Réveillons-nous, quelles sont les vraies valeurs ? C'est quoi qu'on veut? Osons aller vers l'inconnu. Osons aller dans le brouillard.
Mais aussi d'une façon, osons, mais quelque chose qui est très terre à terre et qui n'a pas besoin d'être flamboyant. La flamboyance est dans la relation à l'autre, en fait.
Bien sûr. Mais bien sûr.
Puis absolument. La musique est très présente aussi à un moment donné. On ne va pas divulgâcher, comme on dit au Québec. Donc, on laisse le public découvrir, mais il y a un aspect de musicalité. Donc, on aborde la peinture, la musique, la rencontre. Bref, Yolande Moreau, merci infiniment pour ce magnifique film. Et puis, on espère que beaucoup de gens dans le public pourront s'émerveiller. Merci pour cette fable.
Merci à vous.
Kim Chapiron, bonjour, merci pour votre ouverture à partager sur votre film « Le jeune imam » aujourd'hui. Alors, après vos films qui sont plus dans l'intime, avec Vincent Cassel, Dog Pound, sur une prison avec des mineurs, où il y a quelque chose de très enfermant, et puis La Crème de la Crème, là c'était plus éclaté. Là, on est dans une histoire qui est tirée d'une histoire vraie et aussi qui fait appel à des thématiques extrêmement actuelles sur l'intégration, sur le lien à notre territoire d'origine, sur notre lien à, on pourrait dire, la spiritualité ou la religion, qui n'est pas forcément la même chose d'ailleurs, et puis sur des valeurs intrinsèques humaines, sur le respect, sur la filiation. Bref, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus la genèse de ce film qui est, somme toute, assez différent de vos films précédents?
Alors en effet, mes trois films précédents, je dirais, pour les simplifier, raconter tous les trois la famille qu'on choisit, c'est-à-dire les amis. Donc c'était trois films qui parlaient de bandes d'amis. Celui-ci parle de la famille qu'on ne choisit pas, donc sa famille de sang. Et c'est en effet un film avant tout sur la filiation, le rapport entre une maman et son fils. J'ai voulu traiter voilà, d'une famille, donc là c'est une famille de Maliens, des Soninké, des Bambara, qui ont grandi en France pour la plupart dans le film, mais certains qui ont grandi en Afrique et donc sont des Français issus de l'immigration. Et je dirais que le point de départ de ce film était bien sûr une volonté de parler de la famille, peut-être parce que aussi je vieillis, donc avant on parlait des amis parce que c'était ce qu'on vivait intensément, et donc là moi j'ai trois enfants, dont une grande, 18, 14 et 9, donc ça fait beaucoup partie de nos vies, et donc forcément on a envie d'en parler. Et donc d'en parler là à travers une famille malienne, c'est toujours mieux, je trouve, moi, de crypter un peu ses messages. Donc moi là, c'est sûr que c'est pas du tout ma famille, mais j'ai grandi avec beaucoup de musulmans. Au sortir de l'immense succès international des Misérables, avec l'âge, on s'est interrogé donc sur la suite. Moi, sur les Misérables, j'avais fait la musique. Et puis, on est des collaborateurs très très proches depuis le bac à sable, étant donné qu'on a grandi ensemble à Montfermeil. Moi, c'est tout le côté de la famille de ma mère qui habite à Montfermeil. Donc, on a tout le temps collaboré. Là, j'ai dans mon premier film, dans Chétane. Et celui-ci, donc, bien sûr, sujet contemporain, je rebondis sur ce que vous disiez. Tout le monde parle de l'islam tout le temps, mais personne ne connaît. Et on s'est dit, bah, prenons un des sujets les plus complexes du monde aujourd'hui, un sujet voilà, qui est sur toutes les lèvres, le plus souvent, comment je dirais, au milieu de débats avec beaucoup de certitude et beaucoup de maladresse. Et on s'est dit, bah, faisons une histoire d'amour avec. Ça, c'était quand même le départ. Donc, une histoire d'amour, dans quel sens? Dans le sens où à la base, c'est donc, je ne vais pas spoiler le film, mais c'est une blessure qui est vécue de deux manières très différentes par la maman et par le fils, qui deviendra ce jeune imam, voilà, qui a donné le titre au film. Donc, l'imam, c'est celui qui guide. On a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de débats avec les distributeurs, avec tous les partenaires du film, parce que imam, le mot fait peur à tout le monde. La religion fait peur à tout le monde, l'islam fait peur à tout le monde. Donc en arrivant avec un film comme ça, on avait conscience aussi de ce qui allait se passer. Il faut savoir que nous, l'exploitation en France, il y avait des cinémas carrément qui nous ont interdit de faire des avant-premières, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des débordements. Il faut savoir que c'est un film que j'ai fait sans aucune chaîne de télé. C'est la première fois que ça m'arrive, parce que c'est un sujet qui crée tout de suite... j'ai travaillé sur le film avec Rachid Benzine, qui est un écrivain islamologue français, qui utilise souvent ce mot que j'aime beaucoup, qui est l'anticipation. Quand on parle d'islam, on a tendance à anticiper. On voit le mot imam, on va tout de suite anticiper quelque chose sur le film. Moi le premier, quand j'ai fait ce film, j'ai anticipé la sortie, donc j'ai eu peur, bien sûr, parce que c'est un sujet qui fait peur. Donc moi je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir une fatwa sur le dos? Est-ce que je vais avoir les extrémistes de droite qui vont me tomber dessus parce que je fais un film islamiste? Y a tout ça qui rentre en compte. On avait absolument conscience hein, qu'on était dans ce cas de figure, et on appelle notre film le jeune imam en plus. Donc il y a plein d'images qui viennent en tête, et encore une fois les gens anticipent. Et nous, on s'est dit, bah, faisons le seul film qui ne traite pas de terrorisme. Donc pour ceux qui le verront, non, on a le droit de parler de cette religion qui a 1,6 milliard de fidèles dans le monde. Et enfin, je pense que ces 1,6 milliard parlent d'autre chose que tous ces sujets qui fâchent, qui saturent absolument les médias, l'actualité et la culture. Donc on a fait une jolie histoire d'amour, en mettant bien évidemment aussi une intrigue palpitante, parce qu'on fait du cinéma et que ça reste du divertissement, mais le film avait la volonté de parler de l'islam que vit l'immense majorité silencieuse des musulmans qui vivent leur religion dans la douceur et dans la tranquillité. Donc... C'était l'impulsion, je dirais, était ça, était partageons cette famille-là en douceur.
Bah alors c'est intéressant parce qu'à un moment donné, lors de son premier prêche, l'imam, le jeune imam, parle d'un aspect d'un islam apaisé. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que justement, on n'est pas dans la polarisation des extrêmes, mais bien des gens qui, effectivement, vivent leur religion de façon calme, tranquille. Et on aurait pu, finalement, aborder cet aspect-là de la religion dans un autre cadre. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Vous parliez de polarisation actuelle. Qu'est-ce que cette histoire de filiation et de... Est-ce que ça pourrait être de réparation entre la mère et le fils pourrait trouver quelque chose de lumineux au-delà de l'intrigue que nous ne dévoilerons pas?
Bien sûr, lumineux dans le sens où cette blessure, donc bon, je spoil à peine le début du film, mais ce petit garçon, à la suite d'une bêtise, va se retrouver envoyé par sa maman dans son village, là où elle a grandi, et donc il est quasiment, on peut utiliser le mot, abandonné dans une école coranique. Le petit, donc un petit français d'origine malienne, oui, mais qui a grandi en France, se retrouve au village de sa maman dans une école coranique. Donc là, bon, encore une fois, on coche les cases qui, quand même, font peur généralement aux gens. Et donc, ce petit, voilà, moi, je me retrouve grâce à ce film-là, donc à prospecter, à me retrouver dans des écoles coraniques, en plein Mali, expérience incroyable au fin fond des villages maliens, à vivre le quotidien, la vie de ces jeunes enfants, des professeurs donc de cours d'arabe et de cours de Coran. Et de vivre le quotidien, voilà, de Maliens qui vivent cette réalité. Donc ça, c'était une expérience très forte. Moi, c'est ce que je préfère avec mon métier, de toute façon. C'est me retrouver dans des endroits où normalement, jamais j'aurais dû être, comme le film précédent dont vous parliez, dans les prisons juvéniles, justement au Canada. Juste avant, une série sur les chercheurs d'or. Bah là, je me retrouve dans les écoles coraniques, et c'est ça qui est incroyable avec ce métier. C'est qu'on nous ouvre les portes, parce que les gens adorent raconter leurs histoires. Et nous, là, l'histoire, bien sûr, est avant tout entre ce fils et sa maman, qui l'a abandonné, et lui qui s'est senti abandonné, et elle qui s'est sentie trahie, on peut dire aussi, par son fils. Et donc, il va revenir après en France, et le film traite de ce retour. Pendant ce retour, ce petit qui était plutôt turbulent va avoir donc une sorte de révélation spirituelle, mystique, religieuse, appelons-la comme on veut, et on l'interprète comme on veut quand on regarde le film. Mais ça va devenir un virtuose de la récitation coranique. Et il va être propulsé par sa communauté à devenir donc le jeune imam de sa communauté. Et c'est à partir de ce moment-là où nous, on va s'éclater aussi, parce qu'on fait un film, encore une fois, pour pétiller, pour faire pétiller les gens et les étonner. Et aujourd'hui, moi, une question qui me fait pétiller, c'est justement ce lien que peut avoir le religieux et les mutations technologiques. En quoi le religieux n'échappe pas aux mutations technologiques. Donc, de voir un imam qui, d'un coup, a l'idée de faire son prêche, son fameux prêche, la khutba du vendredi sur Instagram, bah, avec l'âge, on s'est dit, déjà, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Tous les imams, tous les curés, ils sont tous sur Internet. Donc, c'est tous des sortes d'influenceurs. Et donc voilà, le religieux n'échappe pas aux mutations technologiques avec tout le côté un peu étrange que ça peut engendrer. Et on se pose donc la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait autorité, la connaissance ou le nombre de followers? Et donc, mon jeune imam, bien évidemment, va devenir une star des réseaux, parce que c'est un film, donc il faut bien avoir des personnages hauts en couleur, et va devenir une star des réseaux, et tous les problèmes vont arriver à ce moment-là, bien évidemment. Donc c'est un film qui dépasse le religieux, bien évidemment, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, et cette montée, ce rise and fall, parce que bien sûr, après, cet imam, vous le verrez, va vivre un tas de péripéties, mais je dirais qu'en utilisant voilà, le sacré, qui disparaît, je dirais quand même... ou qui a disparu même hein, de l'Occident, le rapport qu'on a au sacré, chez les musulmans, il est très très fort encore. Donc moi, en tant que raconteur d'histoire, quand on a le poids de Dieu sur les épaules, dans des séquences, tout de suite, ça crée quelque chose de très très fort. Si je faisais ça avec un curé, ce serait pas du tout la même chose, parce que c'est d'autres problématiques. Et c'est ça que j'aime, moi, avec cette religion, comme dans les films de Asghar Farhadi, où il mélange justement thriller et religion. Et donc là, nous, d'avoir le poids de Dieu sur les épaules de mes héros, crée des tensions narratives très puissantes. Et c'est ça qui m'intéressait avec ces personnages.
Kim, merci infiniment pour ce temps précieux. Et puis, on ne pourra que suggérer aux lecteurs ou aux auditeurs d'aller voir le jeune imam dans un temps troublé comme le nôtre, un peu d'objectivité et d'humanisme et tout à fait d'actualité. Merci beaucoup.
Merci.
Victoria Bedos, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec une vue magnifique sur le Mont-Royal. On est très très content que vous soyez invité de Cinémania, le festival de films francophones.
Moi qui suis honorée d'être là.
Alors, pour votre film, La plus belle pour aller danser,
oui.
Juste pour commencer, quelle est la raison de cette connexion avec cette chanson-là?
Alors, au départ, c'était pas le titre du film, il s'appelait Léo et moi. Et c'est ensuite, après, quand on parlait de la sortie, que j'ai trouvé cette idée. Mais il y avait déjà, en effet, dans le scénario, on cherchait avec ma co-scénariste, Lali Elsker, une chanson qui soit en décalage par rapport à ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le plus beau pour aller danser, puisqu'elle se déguise, elle se grime, elle se travestit à ce moment-là du film en garçon. Et je trouvais ça marrant d'avoir une chanson qui parle d'une jeune femme qui s'apprête pour aller retrouver son amoureux, alors que là c'est une jeune femme qui s'apprête en garçon pour aller retrouver son amoureux. Donc voilà, c'était
un peu de décalage, une comédie, ça pétille. Alors votre premier film comme réalisatrice.
D'ailleurs, pardon, j'ajoute que c'est une version d'une Québécoise. C'est Michèle Richard qui chante La plus belle pour aller danser dans mon film, et non pas Sylvie Vartan. J'ai pris une version québécoise, figurez-vous.
Bon. Alors, tout est dans tout, comme on dit au Québec. Donc, vous, pour votre premier film comme réalisatrice, pourquoi avoir choisi Philippe Catherine comme un peu décalé dans son personnage, cet homme, ce père plein d'amour, mais un petit peu dépassé par les événements?
Parce que déjà, j'avais envie de voir cet acteur que j'aime beaucoup, cet homme, dans un rôle qu'il n'avait pas encore fait, c'est-à-dire quelqu'un, un rôle qui est moins décalé justement que ce qu'il joue d'habitude, un peu plus ancré dans le sol. Et c'est ce qui l'excitait aussi. Et en même temps, il apporte une touche très très poétique à ce papa. Philippe Catherine, il a quelque chose de si tendre, de si enfantin qu'on ne peut pas lui en vouloir de mal agir, par exemple, ou d'être absent et tout ça. Il apporte une humanité très forte à ce papa et ce côté un peu professeur tournesol, quoi. C'est-à-dire qui la tête en l'air, qui voit pas sa fille, qui sait pas ce qu'elle fait, qui comprend pas les choses. Chez lui, tout passe. Il alors que ça pouvait être un personnage de papa un peu connard, c'est plutôt concon là. Il y a quelque chose de plus tendre quand il le joue.
Alors, sans divulgâcher, comme on dit au Québec, on est dans une maison d'accueil pour personnes âgées.
Absolument.
Donc, il y a un monsieur qui perd la tête, qui perd ses repères par rapport au temps et par rapport à sa compagne. Mais il y a aussi le deuil. Alors, le deuil d'une vie qu'on a eue pour bien les sûr. Personnes âgées. Le deuil de cette petite jeune fille qui se cherche et qui a perdu sa maman. Mmh. Et à un moment donné, il y a une pédopsychiatre qui dit bon, on va essayer de formuler, de faire sortir par la parole. Et puis Philippe Catherine a beaucoup de mal avec ça. Le rapport entre le deuil, le vieillissement, le deuil, la perte de repères et justement être capable de dire les choses. Pour vous, en tant que réalisatrice, c'était quoi le fil conducteur qui liait tout ça?
Alors, la première chose que j'ai écrite dans ma vie, quand j'avais 23 ans, c'est un livre qui s'appelle Le déni. Et du coup, en fait, quelque chose, le déni, en fait, cette démarche qui fait que on n'arrive pas à affronter une réalité qui fait trop mal, est un truc qui m'intéresse beaucoup dans la vie, et puis aussi, du coup, dans la fiction. Et c'est un peu ça qui réunit ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'il y a il y a un déni de deuil, il y a un tabou autour de la mort de cette maman, il y a un tabou autour du fait que cette petite est en train de grandir et le père n'arrive pas à voir ça, ça le dérange parce que parce qu'il a perdu sa femme, et du coup, il y a un côté, si elle grandit, elle va mourir. Et puis parce qu'il ne reste plus que ça, elle a pas envie que, il n'a pas envie que, qu'elle lui échappe. Et il y a un déni aussi autour de la vieillesse, parce qu'il y a un côté, ils sont presque plus jeunes que les jeunes. On dirait des ados qui vivent en colo, enfin une colonie de vacances un peu. Donc voilà, je pense que c'est ça qui réunit tout ça. Alors après, la vieillesse m'intéressait parce que j'ai été élevée par un père vieux qui m'a eu assez tardivement, ce qui fait qu'il était à la fois mon père, mais il avait l'âge d'être mon grand-père. Et au moment où j'ai écrit le film, il était un peu malade, il perdait un peu la tête comme les personnages, et donc j'avais envie de le raconter, mais pour moi, pour expulser des choses, et puis surtout pour en faire quelque chose de plus drôle, de plus léger, pouvoir rire avec cette maladie-là. Et puis, au moment où j'ai écrit le film, on était en plein confinement, et les générations étaient séparées, c'est-à-dire qu'on n'avait plus accès aux personnes âgées. Et moi, ça m'a beaucoup manqué. Il s'avère que là, c'était mon père, mais il y en a que c'était leurs grands-parents. Et les grands-parents ont besoin des petits-enfants aussi. Enfin, voilà, on a été séparés les uns des autres. Et j'avais envie de les réunir dans un film.
Bon, c'est un endroit très lumineux. On a l'impression que c'est un éternel printemps ou début d'été. Ce moment, justement, de l'adolescence où on cherche, on teste, on expérimente des choses. Cette jeune Marie-Luce suit ses élans, et puis on sent qu'il y a à un moment donné une faille, parce que si ça marche bien, ce qui est le cas, sans divulgâcher le si ça marche, ben ça ne peut pas exister. Cette dichotomie entre l'élan, la réalité, et puis quelque chose qui fonctionne pas. Comment elle arrive justement pour vous à trouver sa
voix.
Sa voix à elle, en fait.
Bah, ce qui est intéressant dans l'adolescence, c'est que tout est grave. Tout est important. De ne pas être invité à une soirée, c'est très grave. De ne pas être regardé par l'être aimé, c'est très grave. Et les autres sont un miroir de soi-même, en fait. On a besoin, d'autant plus à cet âge-là, d'avoir le regard des autres. Et donc, je pense que son parcours aussi est lié à ça. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, elle a l'impression d'être transparente. Personne ne la regarde, personne ne la considère, que ce soit son père ou les gens de sa classe. Et son parcours, ça va être d'être regardée. Ça ne va pas forcément de changer, parce qu'elle ne va pas changer, elle ne va pas devenir une autre personne. Mais c'est qu'enfin, on va la regarder pour ce qu'elle est. Et on va l'accepter comme elle est. Et du coup, elle va s'accepter elle-même.
Donc ça, c'est la force du cheminement intérieur.
Bah, c'est des films, comment ça s'appelle, Coming of Age, ça s'appelle comme ça en anglais. C'est comme les romans d'apprentissage, en fait.
C'est un parcours initiatique.
Voilà, c'est ça.
Et pour conclure, le lien avec l'étude au lycée de Marivaux, ouais. Justement cette intemporalité entre ce qu'on vit et ce qui a été vécu il y a plusieurs siècles, et la manière dont on le vit aujourd'hui, en fait, c'est revenir à l'essence humaine, quoi.
Absolument.
Finalement.
Et c'est aussi pour dire, moi, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que Marivaux avait déjà fait de la comédie autour du travestissement et avait déjà utilisé ce système-là pour aller choper la vérité, en fait. C'est-à-dire que Marivaux, c'était plutôt des trucs de milieux sociaux, c'est-à-dire que les gens d'un milieu social inférieur, une bonne par exemple, allaient devenir une reine pour voir si le prince qui machin, c'était voilà des intrigues comme ça. Et là c'est homme-femme, mais c'est vrai que ça me plaisait de rebondir sur quelque chose du passé, déjà par humilité. Et puis pour montrer que tout a été dit, fait, que l'histoire bégaye.
Mais Victoria, merci beaucoup pour cette comédie pétillante qui peut plaire à des jeunes comme à des plus vieux. Puis à Pierre Richard qui fait son retour aussi,
en fait,
qui revient vers des gens pour qui il a eu du mal à garder la constance.
Exactement.
C'est important. Merci beaucoup.
Merci à vous.